De diriger un mémorial quelconque, il commence par choisir la matière en fonction de sa durabilité, marbre, granit, béton armé ou acier. Mais j'ai décidé que l'humanité se souviendrait de lui à l'aide de deux substances les plus fragiles qui soient, du pain sans levain et du jus de raisin. Le pain sèche et moisi, le jus de raisin surit et se renverse facilement. Et cependant, malgré leur fragilité, ces deux éléments commémorent l'avènement à la fois le plus anodin et le plus qualificatif de l'histoire humaine, la mort du Fils de Dieu. Lors de l'institution de la scène par le Seigneur, il prononça ces paroles, « Faites ceci en mémoire de moi. » En effet, les hommes ont besoin de repenser la mort du Rédempteur, et cela pour plusieurs raisons. Pour se rappeler de la dette contractée envers le crucifié, pour la grâce que son acte représente, pour le don de lui-même, car si le Christ n'avait pas payé le prix de nos péchés, la rédemption n'eût pas été possible. La réconciliation avec Dieu ne serait jamais devenue une réalité. La justification n'aurait jamais pu devenir un fait. Les chrétiens éprouvent le besoin de se remémorer le sacrifice de Jésus, afin de sentir en eux la conviction profonde du pardon absolu et définitif de leurs péchés. Cette confiance dans la réalité de son salut remplit leur cœur de joie, de paix et d'espérance. Les disciples de Jésus veulent garder cette mort à l'esprit de manière à éprouver la certitude d'une vie éternelle au ciel quand leur existence sur terre fragile et éphémère aura terminé son cours. C'est parce que Christ s'est sacrifié pour nous que nous pouvons jouir au moyen du sang de Jésus d'une entrée libre dans le sanctuaire. C'est par cette mort que nous reconnaissons notre responsabilité en tant que chrétiens d'aimer, de regarder vers le Fils de Dieu et de vivre pour ce chef et consommateur de la foi. Tous ceux qui appartiennent à Christ ne peuvent se passer de songer à ce qu'il a fait pour chacun d'entre eux en participant spirituellement et coude à coude à la communion, à son sang, à son corps. L'apôtre Paul pose en 1 Corinthiens la question suivante, qui n'a au fond nulle intention de provoquer une réponse. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-il pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le mot traduit par communion dans ce verset est parfois utilisé pour exprimer l'idée d'association fraternelle, d'union dans une même foi ou un même état d'esprit, de participation commune aussi. Les enfants de Dieu, en partageant le repas du Seigneur, communient au souvenir de l'immense amour de Dieu envers les hommes et au sacrifice consenti pour eux par Christ. Paul parle de la coupe de bénédiction, car en fait, ce repas, tout symbolique, n'en représente pas moins une bénédiction potentielle. Il faut de même qu'il existe une puissance dans cette fête spirituelle pour conduire le cœur de l'homme au pied de la croix du calvaire. Nous implorons alors une grâce ou cherchons à partager ce repas spirituel dans le but où il a été créé, c'est-à-dire de ramener nos esprits et nos cœurs vers la croix sur laquelle la rançon des péchés de nos âmes fut payée. Il est un fait évident, c'est que la Sainte Cène nous rappelle d'une manière frappante que c'est à cause du corps et du sang de Christ que nous avons été si abondamment bénis jusqu'à présent. Et que dire du futur, de l'éternité? Le Nouveau Testament contient des instructions particulières quant à l'observation de cette fête spirituelle. L'apôtre Paul, en révélant la volonté divine, nous écrit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Cette fraction du pain est purement spirituel. Et lorsque Jésus dit « Ceci est mon corps », il va de soi qu'il parle de son sacrifice futur. Il est là, encore bien vivant de son ses apôtres. La préfiguration, la métaphore coule de source. Le Fils de Dieu non seulement établit un monument à sa mémoire, mais de plus, il donne des instructions précises sur la manière de participer à ce repas. Le monde religieux est placé devant la nécessité de suivre les directives divines relatives à la scène. Ce à quoi nous assistons toujours aujourd'hui n'est qu'une interprétation aussi humaine qu'abusive des paroles du Seigneur. Si ce dernier avait désiré qu'un changement de substance s'opère à la fois pour le pain sur le vin et le vin, il est évident qu'il l'aurait non seulement exécuté, mais que de plus, cela se serait fait d'une manière visible et immédiate, car tel était le caractère des miracles de Jésus. Nous nous trouvons donc, d'une part devant un illogisme patent, et d'autre part face à une distorsion du but et de l'effet de cette institution purement spirituelle. Plusieurs erreurs fondamentales sautent aux yeux d'après la Bible. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés. Pourquoi dès lors, de rechef le sacrifice, et cela chaque jour? Le Fils de Dieu s'est immolé une fois pour toutes, afin de sauver ceux qui voudraient suivre ses enseignements. Il est parfaitement vrai que Jésus a prononcé ces paroles en Jean chapitre 6, verset 53. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. On imagine très mal ses disciples se précipitant aussitôt sur lui pour le déchirer à belles dents, afin de manger sa chair pantelante et son sang chaud encore. En fait, le Seigneur, contrairement à ce que l'on pense en général, ne fait ici aucune allusion à la scène. Il discourait sur la notion du pain de vie et déclare « Je suis le pain de vie ». Et ensuite, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Le Sauveur parle dans ce passage de son ultime sacrifice pour les péchés du monde. Personne ne peut en douter. Cependant, il ne fait dans ce cas aucune allusion à l'établissement, à une commémoration de cet acte. Il montre par contre la nécessité pour que ces enseignements servent de nourriture spirituelle à chacun. Il faut qu'ils fassent partie intégrante et vitale de la vie de ses disciples. Jésus dit, comme nous l'avons vu, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » La question est de savoir ce que sont cette chair et ce sang de Christ donné pour recevoir la vie. Heureusement qu'un homme inspiré de Dieu, l'apôtre Pierre, répond à cette interrogation. Tandis que nombre de disciples l'avaient quitté, Jésus demande aux autres, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Pierre de répondre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous discernons donc dans la chair et le sang donné par la vie de Jésus ce que son court ministère public a produit de plus précieux, sa parole, ses enseignements. Le Christ l'affirme lui-même, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Par voie de conséquence, manger sa chair et boire son sang signifie croire à sa parole. Cela conduit implicitement cette fois à obéir à la volonté du Christ et exemplifie parfaitement ce qui est dit en Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. L'apôtre Paul montre bien que partager fraternellement le repas du Seigneur ne consiste pas à manger de la chair et à boire du sang. Il dit bien, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dès lors, les paroles fameuses de Jésus s'éclairent, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Loin de prôner une sorte de cannibalisme, cette phrase fait pénétrer en nous, au-delà de son symbolisme, l'idée de s'approprier le Sauveur, de l'introduire en nous par l'observation de son enseignement. Autrement dit, la substance spirituelle de Jésus étant sa parole, cette dernière doit nous donner soif et faim de vérité et nous conduire au salut. La puissance de ce repas ne réside point dans une sorte de présence mystique de Christ. Ce n'est pas non plus la dispensation d'une grâce toute spéciale. C'est une action au sens spirituel qui rappelle profondément aux vrais chrétiens le sacrifice du Seigneur. Ils éprouvent la nécessité impérative de ressentir une gratitude immense pour ce que Dieu a déjà fait pour eux. Une question se pose très souvent. Suivant quelle fréquence doit-on observer le repas du Seigneur? L'apôtre Paul avait dit, Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais que signifie ce « toutes les fois » Cela veut-il dire un jour, un mois, un trimestre, un an? La parole de Dieu ne nous laisse pas dans le doute. Dieu ne nous a-t-il jamais ordonné quelque chose de spirituel sans nous révéler le moment où il fallait l'observer? Si oui, nous pourrions l'accomplir n'importe quand, mais tel n'est pas le cas. Cinq faits bibliques nous permettent de savoir avec quelle fréquence nous devons prendre ce repas. L'Église du Christ, révélée dans le Nouveau Testament, s'assemblait pour adorer Dieu. C'est le premier cas. Deuxièmement, les chrétiens s'y rejoignaient un jour donné. Troisièmement, les membres du corps de Christ se réunissaient le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Et Luc nous informe que les disciples de Troas le faisaient le premier jour de la semaine. Le sabbat étant le septième jour, donc le samedi, le premier jour est nécessairement le dimanche. Quatrièmement, chaque semaine, ayant un premier jour, les chrétiens doivent donc s'assembler ce jour-là. Lorsque Dieu donna pour instruction à Israël de se souvenir du sabbat et de le sanctifier, il voulait dire chaque sabbat. Les Juifs le comprirent tout naturellement ainsi. Paul, en disant que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Ici, la périodicité de chaque dimanche ne fait aucun doute. Et cinquièmement, au premier siècle de notre ère, les fidèles se réunissaient chaque premier jour de la semaine pour prendre la Sainte-Cène. C'était notamment le cas pour les Corinthiens. Ce repas spirituel continue à être observé chaque dimanche par tous les chrétiens soucieux de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur leur a laissé un monument, un mémorial à sa personne, à sa mort, à son retour. Les paroles de Jésus résonnent à nos oreilles. Toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce programme vous était offert par une méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie sans aucun engagement de votre part. Qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom. Ils ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi, et surtout de pratique, est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seul, ses enseignements et ceux des apôtres, font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Que le Seigneur garde.